Dans cette semaine toute particulière de deuil du pape François, au micro aujourd'hui, un prêtre du diocèse de Chambéry. Bonjour, Père Jean-François Chiron.
Bonjour.
Vous êtes théologien spécialiste en ecclésiologie. Vous êtes donc fin connaisseur du fonctionnement de notre Église. L'occasion de vous interroger sur le pape François et comment il a changé cette Église au cours de son pontificat ou pas. On va le voir avec vous. Si d'abord, quand même, une chose est sûre, il avait un style bien particulier. C'est le pape qui arrive tout de suite le jour de son élection en demandant qu'on prie pour lui. Le pape qui, peu de temps après, fait un discours très remarqué sur les 15 maladie de la curie, on peut dire qu'il tranchait avec ses prédécesseurs, sans aucun doute.
Pour un pape, d'ailleurs, pas seulement pour lui, la forme fait partie du fond. Hein, la forme fait partie du message. La façon dont un pape se situe par rapport aux autres évêques, par rapport aux fidèles, ça dit quelque chose d'un message, et d'un message qui porte aussi sur le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez, fondamentalement sur notre relation à Dieu et sur notre relation à Dieu en Église. Hein, qu'est-ce qu'on entend par vivre en Église en direction de Dieu? Voilà, je dirais, c'est ça fondamentalement. Et de fait, il est arrivé avec ce style, faut-il dire latino-américain ou argentin, je ne sais pas, dès la, si je puis dire, la scène du balcon, hein, place Saint-Pierre, a frappé, hein, quand il a demandé aux fidèles de prier pour lui, qui s'est incliné devant la foule.
Il incarne vraiment le message. Et puis, déplacement symbolique aussi, le premier à Lampedusa pour les migrants.
Oui, tout à fait. C'était un de ses thèmes fondamentaux, hein, l'accueil de l'autre et l'accueil des migrants. Bon, on dit souvent que c'est parce qu'il descendait d'une famille d'émigrés piémontais. Mais je pense que ça touchait vraiment des fibres très, très profondes chez lui, d'un accueil, je dirais presque inconditionné, de l'autre. Et ça pose des questions de fond. Est-ce que un État n'a pas aussi le droit, sinon le devoir, d'essayer, hein, en sachant que la chose n'est possible que jusqu'à un certain point, de réguler des flux de population et de migration.
Un pape aussi qui va loger à Sainte-Marthe au lieu des appartements du Vatican, etc. On a souvent critiqué des sorties de route en termes de communication, mais enfin, il y a des choix très forts qui ont été affirmés et qui ont marqué aussi nos contemporains.
Oui, alors, bon, des sorties de route, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure elles étaient volontaires ou pas. Moi, je crois qu'elles étaient relativement contrôlées. Hein. C'est un des mystères, c'est-à-dire c'était un homme qui fuyait les médias quand il était évêque en Argentine et qui s'est mis d'une certaine façon à prendre goût à la dimension médiatique, éventuellement en court-circuitant, c'est vrai, les circuits officiels pour s'adresser directement aux médias. Alors, je dirais pas pour le meilleur comme pour le plus problématique, mais il y a quand même de ça. Hein, c'est une façon de faire passer le message. D'ailleurs, il lui est arrivé d'avoir explicité des prises de position antérieures, y compris, par exemple, quand il avait déclaré haut et fort que non, il n'y avait pas de problème de pédophilie dans l'épiscopat chilien, voilà, et que, avec vraiment, quand même, beaucoup de courage, il a reconnu s'être complètement trompé.
Un pape, on le disait, qui a un message à délivrer au peuple, qui a un message à délivrer à l'Église, institution aussi. Est-ce que vous avez des exemples de réformes à nous citer? Est-ce que finalement, on peut dire qu'il a changé, réussi à changer l'Église, à lui donner la direction qu'il voulait qu'elle prenne?
Il faudrait voir dans le détail. Vous savez que c'est ce qu'on appelle les motu proprio. Hein, c'est le genre de texte par lesquels les papes réforment les institutions ecclésiales. Et il en a signé des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire plusieurs fois autant que ses prédécesseurs réunis. Alors, bon, la liste serait trop longue. Mais, l'institution n'était pas d'abord son objectif. Moi, je pense qu'un texte de réforme très important, c'est l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, hein, vous savez, sur la famille. On parle beaucoup de l'accès ou non de certains divorcés remariés au sacrement, mais c'est beaucoup plus large que cela. Hein, comment avoir une attitude de fond, d'accueil, pas inconditionnée, hein, pour le coup, mais d'accueil des personnes en situation dite irrégulière, comme il le dit, pour les prendre là où elles en sont, mais bien sûr aussi pour leur permettre d'avancer et de progresser. Et ça, c'est un texte profondément réformateur, hein, mais réforme qui dépasse de beaucoup l'institution.
C'est une réforme pas du tout du dogme, qui ne bouge pas d'un mot, mais de l'interprétation qu'on fait de l'attitude pastorale qui va avec ce dogme.
C'est vrai que son point de vue, je pense, était quand même celui d'un pasteur. Autant celui d'un Benoît XVI était celui d'un docteur, hein, d'un enseignant, qui à partir de sa situation d'enseignant, il envisageait la réalité pastorale, c'est-à-dire ecclésiale. Autant, lui, c'est à partir de sa situation de pasteur, d'ancien évêque en Argentine, qu'il envisageait les questions doctrinales. Non pas pour les liquider, pas du tout, mais voilà, c'était un autre point de vue. Vous savez, le dernier article du Code de droit canonique, c'est le salut des âmes et la loi suprême. Hein, donc, c'était vraiment cela, comment assurer le salut des âmes sans laisser des gens sur le bord de la route.
Plus récemment, le dernier synode convoqué par le pape François, ce fameux synode sur la synodalité, qui visait lui aussi finalement à transformer profondément le fonctionnement de l'Église. Est-ce que on en verra les effets ?
Alors on en verra les effets à long terme, donc il faudra voir dans quelle mesure son successeur se saisira de la question. C'est vrai que la synodalité, c'est une question vaste, profonde. C'est une question qui touche la réforme et la conversion. La réforme, c'est ce dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire les institutions. Quelle est l'autorité d'un prêtre dans une paroisse? Quelle est l'autorité d'un évêque dans un diocèse, du pape dans l'Église? Ça touche beaucoup quand même à la gouvernance des communautés. Mais je pense que surtout pour lui, ce qui est premier, c'est la conversion, le changement de regard, de mentalité, d'attitude. Voilà, on ne part pas de zéro, je pense notamment en France. Grâce à tout ce qui a été fait dans l'Église de France, après Vatican II, et même avant, avec l'Action catholique, il y a le rôle des fidèles laïcs qui est important. Mais il y a évidemment des progrès à faire, notamment le statut des femmes dans l'Église. Comment allier la conversion et la réforme?
Au final, comment vous diriez qu'il a le plus changé l'Église?
J'ai envie de dire par ce qu'il a apporté d'inattendu. Donc il a ouvert l'Église à l'inattendu. Je pense que les cardinaux qui l'ont élu, un certain nombre, ont été bien surpris de ce qui est arrivé. Certains ont peut-être un peu regretté. Voilà. S'ouvrir à l'inattendu des initiatives de Dieu, voilà, d'avoir des points de vue qui ne sont pas forcément ceux qu'on a soi-même habituellement. Voilà. Voir les choses à partir des périphéries et puis mettre l'essentiel au cœur par rapport à ce qui est secondaire et peut-être même par rapport à ce qui est second, ce qui a pu déstabiliser certains catholiques.
Et vous, personnellement, en tant que prêtre, tiens, qu'est-ce que vous garderez ?
Un message, je pense encore une fois à Maurice Laetitia, une façon d'être. Mais voyez-vous, j'ai toujours eu la chance, y compris comme jeune prêtre, d'être avec des prêtres plus âgés que moi et qui anticipaient sur ce qu'était Bergoglio, le pape François. Donc, je n'ai pas été surpris ni déstabilisé, même si je ne me suis pas toujours retrouvé dans toutes ces paroles, dans toutes ces initiatives. Quand même, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une continuité avec ce que d'autres prêtres que j'estimais voulaient faire depuis longtemps, et ça m'a plutôt rassuré.
Merci, Père Jean-François Chéron, prêtre du diocèse de Chambéry, théologien spécialiste en ecclésiologie.